Donc après Nègrepelisse, Saint-Antonin, une place stratégique entre Castres et Montauban. Donc c'est Guy Astoul qui est professeur d'histoire et qui s'occupe, toujours d'histoire, mais au sein de la Société Montalbanaise d'études et de recherches sur le protestantisme, qui va nous présenter cela.
Bon, merci Monsieur le Président. Alors, j'ai le plaisir d'être à côté d'Yves Krumenacker, que nous avons accueilli à la SMERP, cette société d'histoire du cette société montalbanaise d'études et de recherches sur le protestantisme. C'est assez compliqué à dire si on ne fait pas attention. Et nous avons organisé plusieurs colloques où Yves Krumenacker est venu, ainsi que Pierre-Jean Souriac. Et donc, je ne pouvais évidemment ne pas être là aujourd'hui. Je remercie évidemment Monsieur le Roy et Jean-Pierre Amalric d'avoir organisé ce colloque qui est dans le prolongement de ceux qui ont eu lieu l'an dernier, auxquels j'avais participé. Nous avons organisé les académies d'ailleurs avaient organisé un colloque au mois de septembre et en décembre nous avons organisé un colloque à la SMERP sur assiéger les villes au XVIIe siècle où Pierre-Jean était là et j'ai inversé là du coup. Pierre-Jean donc a participé à ce colloque, mais il y avait aussi d'éminents spécialistes de cette guerre de siège telle qu'elle s'est pratiquée au début du XVIIe siècle et dont les diverses illustrations du siège de Montauban, évidemment qu'on connaît bien, mais des autres illustrations comme ici cette image du siège de La Rochelle, de Saint-Antonin. Alors, je voudrais, voilà l'image complète qui figure dans l'ouvrage de Baldor sur les triomphes de Louis XIII, cet ouvrage qui est paru beaucoup plus tard. Alors, je vais maintenant prendre ma communication. Après la reconquête du Béarn, qui a été menée par Louis XIII à l'automne 1620, l'Assemblée de La Rochelle, qui s'est réunie en décembre, a appelé les forces militaires des places fortes huguenotes à se mobiliser afin de défendre la cause du protestantisme. Le parti protestant entend combattre la politique menée par le roi Louis XIII et son mentor, le connétable de Luynes, dont les entreprises remettent en cause l'autonomie des places de sûreté garantie par l'édit de Nantes depuis 1598. Lors des négociations menées sous l'autorité d'Henri IV, les représentants huguenots, et notamment Daniel Chamier, un pasteur et professeur de théologie dont il a déjà été question plusieurs fois ce matin, qui était professeur donc de théologie à l'Académie de Montauban, Daniel Chamier s'est illustré au siège de Montauban et a été un peu l'âme de la résistance de cette ville où, évidemment, il est mort. Tous ont âprement défendu le financement d'un système de défense qui protégerait la liberté du culte à l'occasion des négociations de l'édit de Nantes dont a parlé Pierre-Jean tout à l'heure. C'est évidemment sur l'axe Montauban-Nîmes que se trouve un grand nombre de places fortes contrôlées par les protestants et échappant à l'autorité royale. Entre Millau et Montauban, Saint-Antonin occupe une place stratégique comme cela a été le cas en 1621, pour envoyer des secours à Montauban assiégé. La stratégie royale a consisté à affaiblir les citadelles du protestantisme en isolant de plus en plus leur principale place forte. La paix de Montpellier en 1622 a mis un terme aux clauses de l'édit de Nantes qui permettait d'assurer la défense du protestantisme par des moyens militaires. Le traité conclu alors a été immédiatement remis en cause autant par les autorités royales que par le duc de Rohan, dont les forces restent intactes dans ses bastions du Bas-Languedoc. Alors, voilà le plan que je vais suivre. D'abord, le duc de Rohan contrôle les territoires des Cévennes à la Haute-Guyenne. L'Assemblée de La Rochelle s'est poursuivie jusqu'au printemps de 1621. Elle se termine par un accord conclu le 10 mai 1621, un accord mettant en place un système de gouvernement qui permette aux protestants de mieux s'organiser. Ont alors été institués 7 cercles qui devaient diviser la France. Alors, on vous les a montrés ce matin. Pierre-Jean a montré de très belles cartes, notamment de ce découpage territorial qui a été opéré au printemps donc, de 1621. Et chaque province avait un conseil particulier sous l'autorité d'un chef chargé de diriger les opérations militaires et de nommer au gouvernement des places de guerre. Le duc de Rouen est alors désigné à la tête de la Haute-Guyenne et du Haut-Languedoc, et plus largement, on l'a aussi désigné à la tête des forces protestantes. Le 21 septembre, donc au moment du en plein siège de Montauban, hein, le 21 septembre 1621, l'Assemblée du Cercle des Cinq Provinces de Vivarais, Cévennes, Bas-Languedoc, Uzès, destitue Châtillon et désigne un autre général qui se fait rapidement détester. Moins de 3 mois plus tard, cette assemblée décide de nommer Rouen à la tête du Cercle des Provinces. Rouen dirige ainsi l'ensemble du Languedoc et plus la Haute-Guyenne. Il remet de l'ordre dans les finances et réduit les pouvoirs de l'Assemblée du Cercle. Il est aussi nommé gouverneur de Montpellier. S'il se heurte aux velléités de l'Esdiguière qui s'en prend à des places fortes du Vivarais, il réussit à y restaurer la paix. Tranquille de ce côté-là, il fait tout pour se rendre maître des abords de Montpellier et entend contrôler les chemins qui mènent aux Cévennes. Les routes qui conduisent des Cévennes à Castres et à Montauban n'ont aucun secret pour Rouen. Je vais essayer de représenter sur ces cartes, bon alors évidemment, à côté de celles que vous avez vues ce matin, mes cartes sont bien piètres, mais il n'existe pas réellement de cartes et de cartographie, à part les images que Pierre-Jean a réalisées. Hein. Je crois que ça n'existe pas. En tout cas, ce que j'ai voulu représenter sur cette carte, ce sont les deux routes qui permettent... Alors, le duc de Rouen, il est en général du côté d'Alès ou d'Anduze, hein, au pied des Cévennes, vous le voyez, au sud-est des Cévennes et au nord d'Alès, au nord de Nîmes, pardon. Et donc, lorsqu'on voit le cheminement qu'il pouvait suivre pour aller d'Alès à Montauban, il y a deux voies possibles. Une voie par le nord en passant du côté de Millau, suivre un petit peu la vallée du Tarn, mais je crois que mon cheminement là n'est pas très bon parce que la vallée du Tarn, il y a des secteurs où on ne peut pas la suivre et il fallait obligatoirement monter sur le plateau. En tout cas, il y a une ligne qui un cheminement qui permet de passer par Saint-Antonin, puis Bruniquel et Nègrepelisse pour se rendre à Montauban. Il y en a un deuxième qui était sans doute plus direct et moins accidenté. C'est celui qui, passant par Cornus, permet, en traversant les monts de la Cône, d'accéder à Brassac, puis à Castres. Et de Castres, on pouvait prendre par, en particulier, alors je ne sais pas si vous y voyez, là, un peu quand même, on pouvait passer par Castres donc et par la vallée du Giroux, hein, cette vallée qui, partant de Castres, permettait d'accéder à la Garonne du côté de Boulogne et Fronton, hein, où on pouvait aller plus loin jusqu'à Castelnau d'Estrettefonds. D'ailleurs, mon cheminement pour aller à Castres, c'est celui-là, hein, c'est de prendre l'autoroute, de descendre jusqu'à Castelnau et de prendre la vallée du Giroux par Castelginest, etc. Et on va par Cépet, pardon, c'est pas Castelginest, par Cépet, vers Faye et puis Laurent. Et là, effectivement, il y a une route qui est bien, bien pratique. D'ailleurs, il me semble que c'est celle que suivait Fermat au temps où il habitait Beaumont, hein, puisque c'est la route la plus directe pour aller de Beaumont de Lomagne à Castres, hein, lorsque Pierre de Fermat était conseiller à la chambre de Lydie de Castres à partir des années 1630. Je vais citer ici un document et un spécialiste d'histoire militaire que Arthur de Cazenove reprend dans un de ses articles. Les routes n'étaient que des sentiers de renards. Alès, Anduze ou Castres sont les quartiers généraux de Rouen aux deux extrémités de la galerie qui, à travers l'Écosse, relie les villes frémissantes de l'Albigeois et de la Haute-Guyenne aux riches communautés assises sur les bords des Gardons. C'est donc dans ces contrées du sud du Massif central que les places de sûreté sont nombreuses, même si leurs garnisons ont de faibles effectifs. Alors justement, je citais Pierre Jean, qui a bien montré l'inversion géographique qui avait présidé à l'attribution des places de sûreté dont les garnisons devaient être rémunérées en vertu de l'édit de Nantes. Alors, je reprends ici une de ces réflexions qu'il a faites lors du premier colloque de la SMER en 1998, il était encore étudiant, et dans une communication qu'il avait faite avec Eckhard Mirstiel, qu'on peut saluer ici et dont on peut regretter qu'il ne soit pas parmi nous, mais bon, il semblerait que Eckhard ait un peu déserté les estrades et qu'il préfère se consacrer à d'autres plaisirs. Mais c'est bien dommage parce que nous avons beaucoup travaillé avec lui et Pierre Jean en particulier à travers cette maîtrise dont vous aviez rendu compte dans ce colloque. Et j'aurais aimé montrer, mais je ne vais pas la retrouver, tant pis, une image qui montrait justement, tu avais fait un beau camembert, je ne sais pas si tu t'en souviens, un beau camembert qui montrait comment les subsides royaux qui étaient prévus dans les traités secrets là, de l'édit de Nantes, les subsides royaux étaient versés essentiellement aux places de sûreté qui se trouvaient dans l'Ouest ou en Dauphiné et très très peu en Languedoc. Et vous avez pu voir ce matin justement sur les cartes de Pierre Jean qu'il y avait de très grosses taches rouges en Languedoc, du côté de Nîmes et d'Alès, du côté de Montpellier et tout autour de Montpellier, qui correspondaient à toutes les places fortes protestantes. Alors que, évidemment, on remarquait que, c'est effectivement cette carte-là qui montre les places de sûreté qui étaient financées par le roi. Hein, et est-ce qu'il y a la suivante après? Voilà. Et la suivante qui vous montre quelles sont les places tenues par les protestants dans ces années 1620. Et vous pouvez observer que le contraste qu'il y a entre les deux cartes. Hein. Là, on voit bien que dans tout le Languedoc en Haute-Guyenne, il y a une forte présence de places fortes, mais où les subsides versés par le roi étaient extrêmement faibles. Et Pierre-Jean l'a fait remarquer tout à l'heure, cette inversion, elle a une conséquence, c'est que c'est aussi dans les zones où ces gouverneurs étaient rémunérés par le roi, où ils avaient des garnisons entretenues par le roi, c'est dans ces places de sûreté que finalement on a souvent tourné sa veste et changé de casaque plus rapidement que là où évidemment il n'y avait aucun intérêt financier en jeu. Voilà, donc merci Pierre-Jean d'avoir montré ces images qui me permettent en même temps de mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, entre la Garonne et la Loire, excepté la Rochelle, les places de sûreté sont nombreuses et très bien financées, donc de façon à y entretenir une solide garnison sous le contrôle d'un gouverneur protestant nommé par le roi. Un croquis résume à lui seul les distorsions qu'il y avait dans la répartition des places de sûreté selon les provinces. Elles sont beaucoup plus rares dans les pays à forte présence protestante que dans les autres. La Touraine, le Berry, l'Orléanais, le Poitou, l'Aunis et la Saintonge contrôlent à elles seules près de la moitié des garnisons protestantes, alors que le Languedoc, plus le Quercy et le Rouergue, n'en ont que 12%. On peut en conclure que le pouvoir central a ainsi pu récupérer progressivement une autorité militaire sur des places de sûreté dépendantes de son financement et de ses ordres, ce qui expliquerait leur défection au moment de défendre la cause. Alors, deuxième point, Rouen fait tout pour venir en aide à Montauban, assiégé en 1621. Dès le 19 juin, ordre est donné au sieur de Cornisson, sénéchal de Toulouse, de lever des deux troupes afin de combattre le sieur de Rouen et autres perturbateurs du repos public, notamment les protestants de Caussade et de Montauban. Le duc de Rouen vient lui-même dans la ville de Montauban afin d'y organiser la défense en renforçant les fortifications, en formant 30 bataillons de volontaires et en les répartissant dans la place sous les ordres du duc de la Force et du comte d'Orval, son beau-frère. Le 13 juillet, comte d'Orval était le fils du duc de Sully, hein, et le duc de Sully était marié à la sœur du comte d'Orval, qui était la fille de Sully. Le 13 juillet, il s'installe à Castres, donc le duc de Rouen s'installe à Castres, pour relever les esprits consternés et faire préparer un secours pour Montauban en engageant tous les protestants du Midi. Les villes de Nîmes, de Montpellier et d'Uzès lèvent des troupes et fournissent en août un régiment placé sous les ordres du capitaine Bibard. Tous les colloques du Haut-Languedoc, alors les colloques, ici il s'agit d'une sorte de regroupement de communautés protestantes dans un espace territorial. Hein. Il s'agit de ça. Les colloques du Languedoc contribuent financièrement à l'effort de guerre, mais c'est dans les Cévennes que Rouen recrute les combattants les plus valeureux et les plus fidèles, notamment, je cite, Claude de Gabriac, sieur de Beaufort et d'Abèze, avec ses gens de guerre. C'est sous les ordres de ce capitaine et de Saint-Amand que les renforts de troupes sont conduits vers Montauban assiégé en septembre, en passant par les monts de la Cône et la ville de Castres. Alors que l'armée royale effectue ses retranchements autour de la ville, l'état-major est prévenu par un espion que le renfort d'une armée huguenote est attendu. Sous les ordres du duc d'Angoulême, des troupes avec 1200 fantassins à la solde de Delben, archevêque d'Albi, sont envoyées dans l'Albigeois pour empêcher le secours de Rouen. Dans ses mémoires, Bassompierre ne comprend pas comment le dit secours a pu échapper aux troupes royales. Beaufort part de Castres, se rend à Lombers, alors Lombers c'est au sud d'Albi, à côté de la place de Foch dont je reparlerai, d'où il part de nuit pour franchir le Tarn au gué de la Grave. Alors la Grave, c'est après Marsac, entre Marsac et Gaillac, hein, ça se trouve. Ce gué qui permet de franchir le Tarn à cette époque-là. Il n'y avait pas le grand barrage de Marsac qu'il y a aujourd'hui. Et passant près de Cordes, il marche toute la nuit et le jour suivant, puis arrive à Saint-Antonin sans mauvaise rencontre, précise le duc de Rouen dans ses mémoires. Il avait prévu d'envoyer un autre renfort à Montauban. Il s'agissait d'un corps de mousquetaires à cheval, 500 carabins ou hommes de cheval, qui seraient dirigés sur Puy-Laurent, Luc et Caraman, en passant par la vallée du Giroux. Cet envoi n'a pu se faire. De son côté, Beaufort part de nuit, donc une première fois, et, il est à Saint-Antonin, hein, donc il part de nuit de Saint-Antonin une première fois, mais il se rend compte que son guide le fourvoie. Il revient donc à Saint-Antonin et deux jours après repart, traverse Aguilaveyron avec un guide sûr. Dans ses mémoires, Richelieu lui-même salue le choix téméraire de son cheminement. De Saint-Antonin à Montauban, écrit-il, il y avait deux chemins. L'un par une forêt, par la forêt de Grévigne, bien sûr, qui était le meilleur pour l'infanterie, l'autre par une plaine découverte. Beaufort choisit celui de la plaine, jugeant que parce qu'il était le plus dangereux et qu'on ne jugerait jamais qu'il fût pris, il y serait aussi moins attendu. Cela lui réussit assez bien, en conclut Richelieu. Le 27 septembre, il arrive à une demi-lieue de Montauban, mais en raison d'une trahison, il est attendu par Bassompierre, qui fait subir à ses troupes de gros dommages, et surtout, il est lui-même fait prisonnier. Malgré des pertes assez notables, 9 drapeaux et 700 hommes ont pu entrer du côté du Moustier, où elles sont accueillies avec joie. Les annales de la ville de Toulouse, excès de propagande, souligne que les troupes venant au secours des rebelles de Montauban furent défaits par les gardes suisses commandés par Bassompierre et obligés de s'enfuir, sans mentionner l'entrée des 700 soldats au nez et à la barbe des assiégeants. Voilà que la guerre de propagande, elle avait lieu aussi dans ces chroniques, dans ces chroniques locales. Et la chronique, les annales de la ville de Toulouse sont une mine pour comprendre ce qui s'est passé autour de Montauban pendant le siège de 1621. Pendant ce temps, le duc d'Angoulême, qui a été chargé par le roi et le connétable de couper la route de Beaufort avec 500 chevaux et 4000 hommes, c'était pas rien. Il avait une armée quand même qui était énorme. S'il a échoué dans cette opération, il obtient un réel succès en neutralisant les autres troupes de Rouen situées au sud d'Albi. Il s'est approché de la ville de Lombers, qui tenait pour le roi, à 4 km de Réalmont, où se trouvent 400 chevaux et 3000 fantassins de Malose, Sénégas et Saint-Rome, les troupes donc protestantes. Malose, sans attendre le renfort promis par Rouen, décide de prendre le contrôle de l'église fortifiée de Foch à proximité. Mais il est aussitôt assailli par le duc d'Angoulême, qui a acquis de nouveaux renforts, notamment fournis par l'évêque d'Albi. Enfermés dans l'église, les troupes protestantes subissent la perte de 400 hommes et ont 200 blessés. Elles doivent capituler et abandonner la maîtrise du Haut-Languedoc aux troupes royales. À Montauban, les assiégés offrent une résistance telle qu'aucun assaut, aussi acharné soit-il, n'a permis une incursion dans les fossés de la ville. Plus de 16 000 coups de canon ont été tirés sans que cela décourage les assiégés. En octobre, de Luynes a tenté une négociation avec les autorités huguenotes qui s'est déroulée d'abord à Villemur, puis à Reignès, mais aucun accord n'a pu être trouvé. Les ravages de la fièvre pourpre ont décimé les troupes royales en faisant probablement 15 000 morts. La levée du siège s'impose. Commencée le 1er novembre, elle s'opère jusqu'au 13, le jour où le roi dort au château de Montbeton avant de partir pour Toulouse. Il est alors décidé de cantonner 6 000 hommes de troupes et 1 000 chevaux à proximité de Montauban, notamment à Castelsarrasin, sous les ordres du maréchal de Saint-Géron. Si le siège de Montauban a échoué, en ébranlant l'autorité royale, Louis XIII n'a pas renoncé à sa mission de reconquête afin de soumettre les velléités d'autonomie huguenote dans leur place de sûreté. Un grand nombre d'entre elles demeurent bien contrôlées par le duc de Rouen, entre Montauban et Nîmes, en passant par le Haut-Languedoc, le sud du Rouergue et le piémont Sébenol. Alors, troisième point, la reconquête des places de sûreté au cœur de la stratégie de Louis XIII. Commencée en 1620 dans le Béarn, lors du siège de Navarreins, la reconquête des places de sûreté s'est poursuivie au printemps de 1621 dans le Poitou, l'Aunis et la Guyenne. Achevée par l'échec du siège de Montauban en novembre 1621, un échec qui a meurtri Louis XIII, l'hiver passé, cette reconquête s'est poursuivie. Dès le printemps de 1622, le jeune roi de guerre est bien décidé à entreprendre une chevauchée vers le sud-ouest de la France, où il avait déjà reconquis des places fortes l'année précédente. L'armée royale abat Soubise à Apremont le 27 avril 1622 et reprend l'île de Rié. Elle réussit à s'emparer de Taillebourg, du château de la Trémouille, de Royan, puis de Tonnin. Le roi, et il ne reste pratiquement plus aucune place forte sous le contrôle des protestants dans toute la Guyenne, à l'exception évidemment un peu plus au nord de La Rochelle. Le roi est déterminé à affronter le duc de Rouen sur ses terres et comme il l'a fait en 1621, sa stratégie consiste à affaiblir le camp huguenot en le privant de points d'appui. Dès le mois de mars, en Haut-Languedoc et dans le Montalbanais, les troupes royales commandées par le duc de Vendôme ou par le maréchal de Thémines et les troupes huguenotes s'affrontent dans une guérilla destructrice. En Bas-Languedoc, les armées du duc de Rouen sont confrontées à celles du duc de Montmorency du côté de Béziers, alors que le duc de Lestiguière menace le Vivarais de l'autre. L'attaque du château de Montlaur au nord de Montpellier visait pour Rouen à rétablir les communications entre cette ville et les Cévennes. Le seigneur du lieu doit capituler, se rendre, sa garnison est violemment châtiée et, nous disent Vic et Vécette, le duc de Rouen prit ensuite, pilla, saccagea ou brûla tous les châteaux et villages catholiques des environs, On voit évidemment que les protestants n'étaient pas en reste quand il s'agissait de violence. De violence guerrière, sent-on. Alors que le roi chevauche à leur tête, ses troupes arrivent à Montauban au début de juin, mais évitent cette citadelle et se jettent sur Nègrepelisse, qui tombe les 10... Alors, cette citadelle, c'est Montauban, bien sûr. Hein, et se jette sur Nègrepelisse, qui tombe les 10 et 11 juin. Les habitants sont massacrés, on l'a déjà dit. Le roi décide ensuite d'attaquer Saint-Antonin, dont la situation au nord d'Albi est un maillon important entre le sud du Rouergue et Montauban. On trouve un bref récit de ce siège dans les mémoires du maréchal de Bassompierre, et surtout, il est raconté par un témoin oculaire dans son journal du siège, par un certain Antoine Aymard. Dès le 9 juin 1622, la ville de Saint-Antonin a été assaillie par les troupes royales. Ces troupes se sont évidemment installées au nord de Saint-Antonin, où elles se sont logées, elles ont dressé plusieurs corps de garde, et lors des escarmouches avec les défenseurs de la ville, plusieurs hommes, déjà, sont tués. Dans ses mémoires, Bassompierre écrit « On avait fait un fourneau sur la pointe de la mine que l'on fit jouer le matin du lundi 20, et ensuite on fit une attaque générale, on fit même donner à pied 100 gendarmes du roi, on emporta tous les dehors jusqu'à la contre-escarpe et la corne, mais aussi nous y perdions plus de 400 hommes, que morts que blessés. » Alors, bon, j'aurais dû faire cette citation après. Hein. Évidemment, entre le 9 juin et le 20 juin, dont il est question dans ses mémoires de Bassompierre, l'armée royale prend peu à peu le contrôle de l'ensemble du pourtour de la ville, et la ville de Saint-Antonin est alors entièrement encerclée après cette dizaine de jours de combat. Des désaccords ont alors surgi dans le commandement des royaux. Le 18, les assiégeants tirent une centaine de coups de canon et attaquent entre les cornes en prenant le contrôle de la plupart des fortifications modernes. Des femmes participent à la défense et contribuent à repousser l'assaut. Alors, la participation des femmes, c'est quelque chose qu'on retrouve très couramment dans ces combats qui ont été menés par les protestants pendant toutes ces guerres de Rouen. Ça a été le cas d'ailleurs à Nègrepelisse, mais ça a été surtout le cas à Montauban, hein, où les femmes ont vaillamment combattu sur les murailles et largement participé à entretenir le moral des troupes. En tout cas, à Saint-Antonin, voici ce qui se passe. Quelques-unes sont blessées, mais une, la Bertrande, s'est distinguée à décapitant deux soldats ennemis avec leur dague. Alors, la dague, c'est une faux. Hein, c'est une faux. Pas une faucille, d'ailleurs. Jean-Baptiste Foll là, parle de faucille, c'est la faux. Ah, il est là, d'accord. C'est une faux. Alors, si les morts se comptent par centaines dans le camp royal du côté des assiégés, on déplore peu de victimes, et si ce n'est le maréchal de Saint-Sébastien, envoyé par le duc de Rouen pour organiser la défense de la ville et qui est mortellement blessé. Le 19, donc, le roi engage les gardes à attaquer entre les cornes. Cet assaut s'accompagne du tir de plus de 160 boulets, mais beaucoup de capitaines du régiment des gardes périssent aux grandes dames du roi qui, dépité, réunit un conseil de guerre. Bassompierre propose une stratégie différente de celle de Condé en considérant qu'il fallait attaquer par le sud et non par le nord. Il a donc mis ça en débat et finalement, cette proposition n'a pas été retenue. Mais il est vrai que si on reprend les fortifications là, de la ville de Saint-Antonin, ces fortifications qui protégeaient la muraille, la vieille muraille, hein, ceinturaient la ville tout autour du côté nord. Alors le nord, évidemment, là, se trouve à gauche. Mais du côté de l'Aveyron, il n'y avait pas de protection, il n'y avait que la vieille muraille. Et évidemment, pour Bassompierre, il était plus facile d'attaquer de ce côté-là, parce que cette vieille muraille était fragile et que, évidemment, on en viendrait plus vite à bout. Son conseil n'a pas été retenu. Et donc, le 20 a eu lieu ce massacre que Bassompierre décrit, là, là j'avais mal placé ma citation, hein, et que je peux relire. On avait fait un fourneau sur la pointe de la mine que l'on fit jouer le matin du lundi 20, et ensuite on fit une attaque générale. On fit même donner à pied 100 gendarmes du roi, on emporta tous les dehors jusqu'à la contrescarpe et la corne aussi, mais nous y perdions plus de 400 hommes qui étaient, et autant de blessés. Voilà. Donc, ce combat a été extrêmement violent, mais évidemment, la ville de Saint-Antonin est alors ouverte aux troupes royales. Et Antoine Aymar dit de cette journée cruciale, « Le troisième assaut a été donné au niveau des cornes, elle était terrible, et dans les deux parties, on a perdu beaucoup de monde. Les ennemis, à force de troupes et de coups de canon, ont gagné les cornes et fait brèche aux murailles de la ville, près de la maison Lannos. » Bassompierre donc se montre plus précis, et en tout cas, la ville est prise, les Saint-Antoninois sont à la merci des troupes royales, et le 21, donc le lendemain, on entreprend des négociations pour la paix. Dès le 22, les consuls de Saint-Antonin capitulent, les canons du roi ont été rapprochés de la ville et bombardent la porte du pré, dont ils effondrent les tours. Le secours venu de Montauban, 200 à 300 cavaliers, arrive devant la condamine, mais il tombe dans une souricière et se fait massacrer. Le 23, Louis XIII assiste à la reddition. Ce jour-là, Antoine Aymar rapporte l'accord qui a été conclu entre les représentants du roi et les consuls. Les habitants, donc je cite, « Les habitants seraient quittes du pillage, du violement de leurs femmes et du brûlement de leur ville, moyennant la somme de 100 000 francs. » Alors, 100 000 francs, à l'époque, 100 000 livres, c'était une somme qui était énorme. Hein. Ça représentait l'achat, mettons, de 20 moulins, bon, hein, au moins. Donc, c'était évidemment une très grosse somme qui était à la charge des Saint-Antoninois. Pour laquelle somme, donc, s'obligeront 45 bourgeois ou habitants de la ville par contrat retenu par un notaire des troupes de M. de Vendôme, payable à la fin de l'année et jusqu'au réel paiement. Sept bourgeois de la ville, nommément désignés, doivent servir de caution, et évidemment, ça ne pouvait pas ne pas avoir lieu, une douzaine de rebelles ont alors été exécutés. Les protestants, qui contrôlaient le conseil de ville jusque-là, doivent le partager désormais avec les catholiques, parmi lesquels doit être choisi le premier consul. L'administration de la cité échappe progressivement aux protestants, et tout le monde sait ici, évidemment, que cela s'est aggravé jusqu'en 1685, mais pour avoir beaucoup étudié là, les archives saint-antoninoises pour la période du siècle de Louis XIV, la résistance a été farouche, et les saint-antoninois, les protestants saint-antoninois ne se sont pas laissés faire, ils ont conservé une école pendant longtemps, et leur temple, etc. Donc, il faut ici raison garder. La résistance a été très forte jusqu'en 1685, que ce soit d'ailleurs à Saint-Antonin ou à Nègrepelisse. Hein, Nègrepelisse, jusqu'au bout, hein, ils ont gardé leur temple. Hein. Donc, il faut bien voir là qu'on avait affaire à des protestants qui étaient très engagés et très motivés. Les troupes catholiques du duc de Vendôme, fortes de 7000 fantassins et de 500 cavaliers, poursuivent leurs opérations en pays castré. Après avoir pris et brûlé Lombers, elles mettent le siège devant Briatexte, une place de sûreté située. Alors, c'est une place forte, hein, parce que ici, pour reprendre les explications qui ont été données tout à l'heure et qui m'ont bien éclairé, parce que lorsque on reprend les plans d'un article de Dainville hein, qui a présenté à partir d'un document de 1620 les places de sûreté, il en donne beaucoup plus que le nombre que tu as donné ce matin. Hein, donc je pense que là, il faut effectivement, hein, tu as dû davantage vérifier quelle était la réalité de ces places de sûreté. Donc ici, Biratexte, que je prenais pour une place de sûreté, ne l'était pas. Cette place est commandée par le capitaine Faucon, que le marquis de Maloz, le chef des protestants de la région, a nommé à la tête de 500 soldats. Alors qu'il se tient en soutien à Saint-Paul de Damiat avec 2000 fantassins et 200 cavaliers, Maloz le soutient activement grâce à l'envoi de renforts et la fourniture de poudre. Le capitaine Faucon soutient le siège durant un mois et repousse 5 assauts. Mandé en renfort par le roi, qui a besoin de ses troupes pour assiéger Montpellier, le duc de Vendôme lève le siège après avoir tiré 2000 coups de canon et perdu 1500 hommes. Montauban n'a pas été la seule ville à résister. On le voit ici, Briatexte a aussi bien résisté. Après la prise de Saint-Antonin, l'armée royale se dirige ensuite vers le Languedoc. Aiguemorte, Lunel, Sommières, Saint-Gilles, Marcillac et Margues tombent en combat, ainsi qu'en témoigne une lettre du roi le 17 août 1622 annonçant ces diverses redditions. En réalité, ces redditions n'étaient pas définitives, hein, parce que je me suis aperçu que plus tard, la plupart de ces villes ont été reprises par Rouen. Montpellier, après 6 semaines de siège, là je passe sur les détails de ce siège qui a été long, hein, cède aux pressions et perd une partie de ses fortifications, mais malgré Condé qui, le 18 octobre 1622, demande au roi de continuer la guerre et prendre la ville de manière violente, le roi préfère signer la paix les 19, 20 et 24 octobre. Les articles de la paix générale accordés par le roi aux protestants sur supplication lui faite par leurs députés au camp de Montpellier, les 19 et 20 octobre, rétablissent leur statu quo ante. Ils déclarent l'amnistie pour le passé et décident l'envoi de commissaires protestants et catholiques dans les provinces pour l'exécution du traité. Aujourd'hui, 18 octobre, le roi étant devant Montpellier, désirant bien et favorablement traiter les habitants de la dite ville en considération de l'obéissance qu'il rend à Sa Majesté, et en exécution de la paix générale qu'elle accorde à ses sujets, a ordonné et ordonne que ci-après, il n'y aura ni gouverneur, ni garnison dans la dite ville, ni aucune citadelle bâtie. Ainsi, Sa Majesté veut et entend que la garde de la dite ville demeure esmaine des consuls et n'y sera rien innové, excepté pour le rasement des fortifications suivant les instructions qui seront données aux commissaires députés pour cet effet. Je cite ici, évidemment, cette déclaration dont vous avez vu tout à l'heure aussi la présentation. Le 19 octobre, le duc de Rouen a présenté à Louis XIII, le gouverneur de la ville Calonge, accompagné par les députés des Cévennes, de Nîmes et d'Uzès, qui s'agenouillent pour demander pardon au roi. Le gouverneur Calonge prend ensuite la parole. « Sire, nous sommes envoyés de toutes les églises de France et souveraineté de Béarn pour, en leur nom, demander très humblement la paix à votre majesté. Nous prétendrons faire voir à votre majesté que nuls ne peuvent être plus que nous, ces très humbles, très obéissants, très fidèles sujets et serviteurs. » Les consuls présentent ensuite les clés de la ville au roi, ce qui permet son entrée solennelle dans la cité soumise le 20 octobre. Dans la déclaration de paix met fin à la campagne royale dans le sud de la France. Elle confirme l'édit de Nantes, rétablit les droits et libertés de culte et de gestion des affaires des communautés huguenotes. Mais cette déclaration en diffère en prévoyant de supprimer les fortifications des villes de sûreté, ces bastions de résistance à l'encontre du pouvoir royal que Louis XIII ne veut plus tolérer. L'article 5 prévoit en effet que toutes les fortifications des villes tenues par ceux de la religion seraient démolies et qu'on n'y laisserait que les anciennes murailles. Ainsi, la campagne de Languedoc aboutit à la perte d'environ 80 places de sûreté, jusque-là tenues par les protestants, pour la plupart conquises puis démantelées, pour d'autres achetées par le roi. En Montpellier, sans tenir compte de la déclaration de paix, le roi décide de laisser dans la place deux régiments, le régiment de Picardie et celui de Normandie. Cette garnison d'environ 4000 hommes, commandée par le marquis de Valençay, est maintenue hors les murs, mais prête à intervenir afin de veiller au démantèlement des remparts. Alors, ma dernière partie porte sur l'affaiblissement inexorable du camp huguenot. Cet affaiblissement est d'abord liée à la désertion des grands nobles qui ont choisi de ne plus soutenir la cause. Conscient de la faiblesse des forces armées huguenotes face à la puissante armée royale qui vient d'être renforcée et réorganisée, les grands chefs de guerre huguenots sont convaincus de l'insuffisance de leurs forces afin de la combattre. Au premier rang, on peut citer le duc de Sully, dont la fille Marguerite est l'épouse du duc de Rohan. La lettre qu'il adresse à son gendre est publiée avec le récit véritable de la prise par force de la ville d'Albiac, alors c'est Albias, hein, près Montauban, et punition des habitants d'Issel, mis et taillé en pièces pour cause de perfidie et rébellion par M. le duc de Mayenne. Dans cette lettre, datée du 22 août 1621, Sully en appelle à la paix et à la négociation, plus qu'à l'engagement militaire. Et toutes les places de sûreté dont il est seigneur, alors on vous a parlé évidemment de toutes celles qui se trouvent dans le centre de la France, et en particulier dans l'Orléanais, mais il y avait aussi quelques places fortes qui lui appartenaient, dont il était seigneur, dans le Quercy, notamment autour de Cardaillac, mais aussi il possédait Caussade et Montricou. Voilà. Donc il n'était pas une place forte protestante, hein, mais il était seigneur de Montricou. Voilà, donc j'ai cité ainsi le duc de Sully, mais le duc de Bouillon, on vous l'a dit, était lui aussi favorable à la paix avec le roi. Le duc de la Force, qui a dirigé la résistance montalbanaise en 1621, est le premier à renoncer à combattre l'armée du roi au printemps de 1622. Hein, il a donné les clés de la ville au roi, qui a pu rentrer dans Sainte-Foy-la-Grande sans combattre. Voilà. Il a eu en échange, évidemment, 20 000 écus pour compensation de son gouvernement du Béarn, de la charge de capitaine des gardes et du bâton de maréchal. Évidemment, on savait dans ce monde-là comment monnayer les affaires. Lorsque le duc de Lesdiguières change de camp en 1622, la place forte de Villemur, qui avait été donnée par Henri IV en 1596, a été vendue au roi Louis XIII en novembre 1621. Hein, c'est un notaire, d'ailleurs, de Montèche, Balès, qui a enregistré cet acte de vente de la vicomté de Villemur au roi pour 700 000 livres, ce qui était, ou 800 000 d'ailleurs, je n'ai pas noté le chiffre, bref, pour une somme qui était énorme. La lettre du roi du 29 juillet 1622 avise le Parlement du Dauphiné de la conversion du duc de Lesdiguières et confirme sa nomination à la charge de connétable. Il a été le dernier connétable qui ait porté ce titre dans la monarchie. Le rôle des pasteurs a souvent été mis en avant. D'abord en tant qu'aumônier des fidèles. Alors, je sais pas, j'ai encore du temps. Bon, ça va. Le rôle des pasteurs a souvent été mis en avant, d'abord en tant qu'aumônier des fidèles en armes et ensuite en tant que ferme soutien des interventions militaires afin de défendre la cause que la plupart d'entre eux soutiennent. Évidemment, Daniel Chamier a été évoqué, je n'y reviens pas. Pierre-Jean Souriac nous a dit que les pasteurs étaient plutôt favorables à respecter les règles du calvinisme et du luthéranisme, d'ailleurs, et qui consistaient à respecter l'autorité royale, ce qui était vrai. Mais il y avait quand même, notamment en Guyenne et au Languedoc, il y avait pas mal de pasteurs qui pensaient le contraire. Hein. Et je vais en citer quelques hommes, en dehors de Daniel Chamier. La plupart donc de ces pasteurs restent éloignés des champs de bataille, mais par exemple, Jean de Voisin s'est fait remarquer lors de la prise de l'église fortifiée de Foch. Il accompagne par la suite Rohan dans ses déplacements jusqu'au siège infructueux de Sommières, où il est tué d'une mousquetade, je cite, sur le pont auprès de la croix, à mesure qu'il haussait la tête pour l'envisager. C'était un homme doué, de belles qualités, mais d'un zèle inconsidéré, qui à la fin lui coûta la vie. C'est Bouffard Madiane, hein, le même Bouffard Madiane qui a été lui aussi cité, qui le cite dans ses écrits. Voilà. Alors, un autre témoin réprouvant la confusion d'un engagement militaire du ministère ecclésiastique écrit, ceux qui l'avaient connu jugèrent sans passion cette sanglante mort digne des violences de sa vie. On peut aussi citer Pierre Béraud, hein, il a été un peu cité tout à l'heure, mais je crois qu'il faut... il mérite d'être cité ici, dans la mesure où il a été sur les murailles de Montauban en 1621, et il a été surtout le fer de lance de la lutte aux côtés de Rouen dans la période de 1627 et 1628, au moment du siège de La Rochelle. Et il a écrit alors « L'état de la ville de Montauban », alors je passe les détails de ce titre, où il témoigne de la vigueur et des encouragements pour soutenir la cause. Je le cite, « De quel front ose-t-on tourner à blâme que je monte à cheval, puisque par mes exhortations et encouragements, je vois tous les jours mes travaux ?» Dans son récit, il se met directement en scène. Il évoque ainsi les escarmouches avec les troupes royales qui approchent de la ville. « Je m'y trouvais là, seul à cheval, travaillant à ranimer et à désabuser ceux qui n'avaient pas bien pris le commandement de se retirer aux autres. » Et plus loin, nous prenons la route de Canals. Alors, je parle ici d'un épisode qui a eu lieu du côté de Dieupentale et Canals. Nous prenons la route de Canals, environ les 10 ou 11 heures de nuit. Je fais la prière à Dieu d'escadron en escadron, représente en peu de mots qu'il y allait de la cause de Dieu, de la liberté de nos consciences. Nous allons dans le bois de Canals en embuscade. Après la guerre, il est censuré par le synode national de Charenton de 1631, qui le trouve d'un esprit chaud et qui allait vite en raison de cet ouvrage donc, où, non content de justifier la prise des armes, il s'était avisé de soutenir que les ministres mêmes ont vocation de les porter et de répandre le son. Alors, ces citations-là sont reprises d'un article de Philippe Charrère sur les pasteurs languedociens et donc leur engagement dans cette période qui va de 1623 à 1629. Si Louis XIII, pendant quelque temps... essaie d'appliquer les décisions de la paix de Montpellier qui garantissaient le respect des règles de l'édit de Nantes, il ne tarde pas à ajourner ses engagements. En les enfreignant allègrement, l'armée royale s'empare de 5 places de sûreté en Dauphiné, où déjà les Lesdiguières avaient contribué à rallier de nombreuses passes fortes à la cause royale. À Montpellier, les 4000 hommes que les consuls ont engagés à démolir les fortifications se livrent à des dragonnades et pourrissent la vie des habitants. Ainsi, dès février 1623, les remparts de la ville sont détruits. Plus grave, le gouverneur de la ville, M. de Valençay, fait arrêter le duc de Rouen et le fait emprisonner. Il proteste lui-même dès le 27 février contre sa détention. Après sa libération le 8 juin, il écrit au roi à M. d'Herbault, secrétaire d'État de Castres. Un rapport rédigé en 1623 fait un état des provinces rebelles non subjuguées pour le Languedoc divisé en 4 synodes. Si le Vivarais n'a que peu de places fortes, le Bas-Languedoc dispose de nombreux points d'appui. Les protestants tiennent Montpellier, Lunel, la ville la mieux fortifiée, Nîmes, Aigues-Mortes, Vauvert, Émargues et Bourgade d'alentour, Uzès, la citadelle de Rouen. Si les Cévennes fournissent aux protestants une grande quantité de bons soldats, le rapport précise qu'il n'y a aucune ville de conséquence ni capable d'attendre le canon, comme s'il serait malaisé de l'y conduire. À la périphérie se trouvent de solides places fortes comme Anduze, Alès, Sauve, Sommières et Saint-Ambroise. Dans tout le Gévaudan, il n'y a que Mérueil, le Haut-Languedoc n'a que Castres. Après, il ne restera en France que La Rochelle. Alors, voilà un petit peu la carte de ces places fortes protestantes. Hein. On voit bien que tout ce qui est à l'ouest du Languedoc et à l'ouest du Rouergue, ce sont des places qui ont renoncé, soit parce qu'elles ont été reconquises, soit parce que les chefs de ces places fortes ont préféré renoncer. Et si bien que, finalement, on voit qu'il n'y a qu'en bas Languedoc qui reste des bastions très forts et très solides. Le 17 décembre 1622, des instructions sont données aux commissaires députés pour procéder à la démolition des nouvelles fortifications de Castres. Le même jour, une commission est désignée pour la démolition d'autres places du Languedoc. Le 31 octobre 1622, a été donnée au duc de Rouen commission pour résoudre les démolitions qui sont faites aux villes tenues par ceux de la RPR. En dehors de Rouen et de ses amis, la haute noblesse est passée du côté du roi. Pour faire pièce aux prédications catholiques, à outrance, s'élève de Genève la grande voix d'Agrippa d'Aubigné, mettant en garde le roi contre l'Espagne. Dans le même ordre d'idées, alors je crois que ça a été rappelé ce matin, hein, pour beaucoup de protestants et pour beaucoup de catholiques, l'ennemi à cette époque-là, c'était l'Espagne et pas les protestants. Dans le même ordre d'idées, trois gentilshommes vieillis au service du roi Henri le Grand écrivent à Louis XIII en 1622. Ils attaquent les serviteurs du souverain qui sont aussi ses geôliers, qui lui cachent l'histoire de son pays et qui ont banni en les diffamant tous les partisans d'Henri IV. Personnes et villes qui avaient soutenu ce roi ont été déshonorées, affamées, pillées, démantelées, et les dernières sont devenues de simples bourgades, sauf celles qui se sont défendues. L'autorité royale s'est affirmée. Elle dispose désormais d'une armée solide, dont le recrutement organisé, alors là je suis passé à la conclusion, hein, dont le recrutement organisé a mis fin à la mobilisation anarchique des bandes commandées par des capitaines telle qu'elle est pratiquée au XVIe siècle. Cette armée, plus nombreuse, a eu raison des levées protestantes ou des opérations, certes courageuses, mais souvent vaines, de Rouen ou des autres garnisons encore capables de se battre, comme celle de Montauban ou de La Rochelle. La lassitude a gagné les plus irréductibles des chefs de guerre huguenots, et leurs soldats, jusque-là poussés par un engagement fervent, ont été gagnés par le découragement. Pas tous, cependant, et l'agonie des Rochelais morts de faim dans leur ville en 1628 témoigne des extrémités où peuvent conduire le fanatisme. Si l'historien ne peut tirer les leçons du passé en comparant des événements qui ne se sont jamais déroulés de la même façon, il peut néanmoins analyser les comportements humains et opérer des rapprochements de situations analogues, même si ces situations peuvent se passer à des époques dans des lieux différents. La cause huguenote a été défendue bec et ongles par les croyants convaincus de leurs bons droits et prêts à sacrifier leur vie pour leur foi. Ce fanatisme se retrouve dans d'autres formes d'engagement, telles que le nationalisme ou le patriotisme ont pu, à partir du 19e siècle, les encourager. Lorsque la mémoire collective d'un peuple est imprégnée d'idéaux qu'il suffit d'exalter par une éducation et une propagande pleine de persuasion, cela peut conduire à un dévouement sans bornes. Ainsi, le fanatisme comme le patriotisme peuvent conduire les peuples à une exaltation telle qu'elle leur permet d'accepter d'en mourir. Dans les années 1620, lorsque le camp huguenot s'affaiblit, il est clair que le jusqu'au boutisme ne peut conduire qu'au sacrifice suprême, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, on le voit sous nos yeux, avec les Ukrainiens qui sont face aux Russes.
Oui, quand même, je m'interroge quand même sur la stratégie du duc de Rouen, qui est quand même le responsable principal. Oui. Dans toute la région, à la fois Languedoc et Haute-Guyenne. On a quand même, alors qu'il était au début établi à Castres, son déport vers les Cévennes et vers le Languedoc a incontestablement pour effet de priver les forces protestantes du commandement, de la direction qui pourrait les animer. Et je pense qu'il y a là un choix stratégique qu'il a fait, qui a été funeste, finalement, aux forces protestantes. Alors, je sais que c'est une personnalité difficile à cerner, d'ailleurs. Oui. Car chez lui, quelle est la part de la conviction, qui est forte, certainement, mais quelle est la part aussi du calcul politique? On voit qu'il est aussi toujours attaché quand même à maintenir la fortune de sa maison, etc., etc. Quelle est la part de ces amitiés qui semblent fluctuantes? Par exemple, la manière dont à Castres, il se débarrasse de Bouffard Madiane, qui était maire de la ville, qu'il avait chaudement soutenu au départ, et puis, quand il y a un désaccord,
qu'il a lâché.
Il l'éjecte complètement. Et donc, il y a chez lui quand même une... une imprévisibilité et une dureté de comportement qui rendent son parcours difficile pour moi à cerner.
Oui, je crois que les difficultés qu'il a eues à Castres, qui ont déjà été évoquées plusieurs fois, ces difficultés ont fait qu'il se rend bien compte qu'il ne peut plus avoir de réel soutien militaire de ce côté-là. Même s'il a voulu maintenir la ville de Castres sous sa tutelle, et si les Castrés eux-mêmes, je pense, étaient très partagés, ils étaient très partagés entre eux. D'ailleurs, il y a un très bel article de Pierre Jean sur ce point, là, sur cette affaire de Castres. Je vous invite à aller le consulter sur Internet, parce qu'on voit bien là quelles sont les difficultés qu'il y a entre les notables à s'entendre. Et à Castres en particulier, la situation est extrêmement compliquée et complexe. Je pense que les divisions qu'il y avait, les points de vue différents qu'il pouvait y avoir entre les notables ont fait que finalement ils n'ont pas réussi à s'entendre et à avoir une réelle unité face à l'armée royale. Et de ce fait, donc, Rouen a été contraint, je dirais quasiment, à se rabattre sur le Bas-Languedoc pour essayer d'y organiser une défense. Mais sans doute savait-il à partir de 1623 que cette défense serait extrêmement difficile, parce que le rapport de force était évidemment totalement en faveur des troupes royales. Et même s'il y a dans les Cévennes des réservoirs d'hommes inépuisables, cela ne pouvait évidemment pas permettre de combattre des troupes qui étaient très très bien armées, de mieux en mieux armées, parce que c'est ça finalement qui se passe dans ces années-là. C'est que l'armée royale est de mieux en mieux organisée et prête à combattre.
Est-ce que vous pouvez dire ou situer le moment où le rapport de force s'inverse par rapport, par exemple, à l'époque d'Henri IV, où Henri IV est face aux protestants dans une situation où il doit concéder beaucoup plus qu'il n'aurait souhaité, et 20 ans après, la situation a changé. Quand est-ce que le rapport de force a changé, militairement parlant ?
Je crois qu'il a d'abord changé par le fait que la plupart des grands chefs nobles ont finalement souhaité la fidélité au roi. Je crois que c'est là que tout a basculé. Je pense que Pierre-Jean est d'accord avec cette idée que c'est à partir du moment où le parti protestant a perdu le soutien de ces grandes familles nobles qui tenaient des villes entières, à partir du moment où Duplessis-Mornay, par exemple, à Saumur, à partir du moment où Duplessis-Mornay, qui a été un des plus fidèles combattants auprès d'Henri de Navarre, puis d'Henri IV, qui a d'ailleurs contribué, ceci dit en passant, aux fortifications de Montauban en 1585 et 1586. Duplessis-Mornay a été très présent dans notre région pour justement être le porte-parole du roi Henri de Navarre. Et il a été à ses côtés. Or, Duplessis-Mornay capitule sans combattre et livre les clés de la ville à Louis XIII dès que l'armée royale s'est présentée aux portes de Saumur. Je crois que cette capitulation de Duplessis-Mornay a été sans doute pour le parti protestant celle qui a fait basculer. Je crois que Sully était déjà sur cette ligne. Bref, je crois qu'à partir du printemps 1621, malheureusement, le rapport de force s'est dégradé en faveur des protestants. Et c'est évidemment largement favorable aux catholiques.
Ah oui, alors, tout à l'heure, on a eu une conversation ce matin au sujet des convertis célèbres. Et alors,
qui n'a pas retenu mon épisode du moine, parce qu'il est quand même cité dans le Mercure français. Donc, oui. Dans la propagande française sur le siège de Saint-Antonin, il y a l'histoire d'un ministre protestant qui est un ancien cordelier, donc qui aurait soutenu les troupes donc, contre l'armée royale, et on a composé sur lui un poème, dont vous le connaissez peut-être, hein, qui, comme quoi il a été pendu aux branches. Alors voilà, ça commence, pardon, ça commence comme ceci. Vous allez le citer peut-être, sinon. Un moine de longtemps sa corde avait quitté, il était cordelier, hein, ben, il portait la corde, le sac et la corde, vous savez, pour dans Saint-Antonin prendre le court manteau d'un ministre éhonté, mais enfin cette année, il a trouvé sa corde en la main d'un bourreau. Et après il continue, et il dit qu'à la fin, ça s'est même tenu bien, parce que de surcroît, il a pour renfort une branche. Il termine pendu. Alors, il fait partie des pendus parce qu'il y a une dizaine de pendus qui a eu les notables. Partout, je vois qu'on parle des notables.
Il y a eu 12
pendus, comme à Nicopolis, comme partout, à ceux qui se rendent. Voilà. Donc, c'est un cas de converti, celui-là. Fanatique. Ouais, mais... Il a dû exister, puisque c'est cité dans le Mercure français.
Le Mercure français est justement un
propagande catholique.
Il n'y a aucun doute. C'est-à-dire que, alors évidemment, quand ils rendent compte du siège de Montauban, ils sont bien obligés quand même de sortir quelques réalités et faire part de l'échec. Mais ils le font de telle façon que, de toute façon, c'est toujours la faute des autres, en particulier de Deluine. Hein. On a beaucoup chargé de lui.
Oui, Deluine, il a tout pris.
Dans la propagande autour des royalistes. Et cette propagande est permanente. Hein. Et je crois que dans les... Déjà sous Louis XIII, alors, pour le règne de Louis XIV, c'est très connu, ça a été très longuement analysé, très souvent, il y a énormément d'images et de textes là-dessus. Mais pour Louis XIII, ça, effectivement, je crois que ça n'a pas été fait. Alors que cette propagande est la même, exactement la même. On a pratiqué avec les mêmes moyens et la même puissance. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que... La Gazette Renaudot a été inventée en 1631. C'était pour en faire un outil de propagande royale. Et donc, dès 1621, et le siège de Montauban est frappant pour ça, hein, parce qu'il est évoqué dans l'Europe entière, hein, cet échec royal. Mais en même temps, il y a toute cette propagande inverse qui tend à occulter le siège. Et qui tend à minimiser la portée que ça pouvait avoir. Alors qu'en réalité, ça avait été une belle défaite de la part du connétable de Luynes.
Un autre élément peut-être de faiblesse quand même de la défense de Saint-Antonin, c'est l'absence de réaction efficace des Montalbanais.
Oui.
Puisque...
ils sont arrivés très tard et avec très peu d'hommes.
Voilà. C'est la nuit de la nuit de la reddition de Saint-Antonin. Ceux de Montauban, ignorant la prise, nous dit, c'est le Mercure français là, envoyèrent un secours de 200 hommes, ce qui n'était quand même pas énorme, jusqu'à la seconde porte de la ville en criant « Vive Rohan !» C'était peut-être pas non plus très habile. Voilà, et donc en réalité, les secours... sont insuffisants, ils arrivent trop tard et visiblement ils ne sont pas préparés à la situation. Et donc je crois qu'il y a une espèce de dislocation à travers ça, des réseaux d'entraide et de secours qui avaient existé encore en 1621 et qui là en 1622 ne fonctionnent plus.
Oui, je crois que là tout à fait. C'est vrai que le mot de réseau là convient bien. D'ailleurs c'était celui que je voulais employer pour expliquer... Justement, la force de Rouen en 1621, elle reposait sur ce réseau des places fortes dont il disposait dans tout le Languedoc et en Haute-Guyenne. Ce réseau était relativement dense et proche, et si bien qu'il pouvait avoir des points d'appui importants. Mais on voit bien que dès 1622, ce réseau commence à éclater, à exploser. Je crois que c'est là que malheureusement, les protestants n'étaient ni assez forts, ni assez nombreux pour résister.
Bien, je crois, je vais laisser Yves Krubenacker conclure, mais je voulais dire deux mots anecdotiques avant de terminer. L'un concerne ce que vous avez dit de la technique du siège, où se sont opposées la thèse de Condé et la thèse de Bassompierre. Et la thèse de Bassompierre a consisté à dire « la défense de la ville est beaucoup moins assurée du côté de la rivière, c'est par là qu'il faut y aller. Il suffit pour ça de mettre la rivière au niveau de passage à gué en supprimant la chaussée qui permet, qui retient l'eau. » Alors je dis cela pour les habitants de Saint-Antonin dans cette salle. On sait, nous, par cette expérience, ce qui se passera le jour où on cassera la chaussée de Romégousse. On pourra passer à gué devant Saint-Antonin. Bon, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a dans cette salle, et son auteur est là, je crois, Jean-Baptiste Folle, une série de cartons dessinés qui racontent en 20 épisodes les férocités du siège et de l'après-siège. Donc vous les avez là tout autour, vous pouvez les regarder avant de partir.